Radio Campus Tour, 99.5 FM.
La indignation en cambio politico. Excusez mon accent. Littéralement, prendre les choses en main, convertir l'indignation en changement politique. Publié dans le journal numérique Publico. Ce qui intéresse alors l'opinion publique, médiatique ainsi que politique, il faut le reconnaître, c'est que ce manifeste se voit signé par une trentaine d'intellectuels, de personnalités de la culture, de journalistes, et d'individus engagés socialement et politiquement. Dans ces signataires, nous trouvons entre autres, pour n'en citer que quelques-uns, car il y en a beaucoup, un certain Juan Carlos Monedero, professeur émérite de sciences politiques à l'université Complutense de Madrid, l'UMC, ou encore Santiago Alba Rico, écrivain et philosophe espagnol, ainsi que le syndicaliste Candido González Carnero, membre du courant syndical de gauche. À partir de ce moment-là, le manifeste interroge légitimement. Mais que peut bien contenir ce manifeste pour qu'il soit signé par tant de personnes? Très simplement, ce texte exprime clairement la nécessité de transformer la mobilisation sociale du mouvement des indignés en processus électoral, notamment en vue des élections européennes de mai 2014, avec l'objectif d'opposer des idées de gauche aux politiques de l'Union européenne concernant la crise économique de 2008. Déjà, un souci de souveraineté rentre donc en compte. Et pour comprendre pourquoi on accorde autant d'importance à ce sujet, on doit encore remonter dans le temps et expliquer le contexte que je viens juste de vous exposer. Mai 2011, en Espagne, c'est le rejet du bipartisme, le PPE et le PSOE, de la corruption, de la crise et d'un chômage de plus de 20%. Donc ce sont des centaines de milliers de manifestants qui défilent dans les rues principales des villes espagnoles. Et le mouvement des indignés naît alors le 15 mai sur la place de la Puerta del Sol à Madrid. Ce jour-là, les manifestants protestent contre les politiques d'austérité nées après la crise économique de 2008, comme nous le disions auparavant. Le mouvement des indignés est d'ailleurs mené notamment par un certain Stéphane Hessel, la personne à l'origine d'un ouvrage qui se nomme « Indignez-vous, souvenez-vous ». C'est ce jour-là que les choses s'amorcent pour Podemos. Depuis, le mouvement s'est structuré et le parti se fonde le 17 janvier 2014, porté par le professeur de sciences politiques de l'UMC et analyste politique télévisuel Pablo Iglesias Turrión, qui en est toujours l'actuel porte-parole. Mais ça, Virgile va pouvoir nous en parler plus précisément dans une deuxième partie. Et le premier test pour le parti se déroule alors aux élections européennes de 2014. Le 11 mars de la même année, le parti s'enregistre et se présente avec pour directeur de campagne Íñigo Errejón, politologue et chercheur de sciences politiques à l'UMC. Ne vous moquez pas de mon accent, s'il vous plaît. C'est pas très sympa. À partir de là, c'est la surprise pour beaucoup de personnes. En effet, le parti a dépassé la barre des 10% dans les Asturias, à Madrid, aux Canaries et aux Baleares, du jamais vu pour un tout nouveau parti. Lors des élections municipales de mai 2015, le parti choisit finalement de ne pas présenter ses propres listes et soutient les listes locales rassemblant des petits partis en citoyens. Ainsi, l'une de ces listes arrive en tête à Barcelone, deuxième ville du pays, et dans d'autres villes arrive en seconde ou troisième place, en témoigne par exemple Madrid, qui est la capitale, Valence, troisième ville du pays, Saragosse, la cinquième, la Carogne ou encore Madix. À cette étape, ce sont les élections générales du 20 décembre 2015 qui se jouent en Espagne. Car si Podemos se présente aux élections, c'est pour gagner et il décide de mettre toutes les chances de son côté. En effet, Podemos décide alors de s'allier au niveau national à la petite formation écologiste Equo. Rajoutons à cela que dans certaines communautés autonomes, Podemos loue des alliances avec des partis écologistes et régionalistes tels que Comú Podem en Catalogne, Compromís Pedro S. El Moment, une communauté valencienne, et N. Marea en Galice. Au soir des élections, Podemos et ses alliés remportent alors 20,66% des voix, ce qui représente 69 députés au total, dont 46 pour Podemos. Et se place ainsi troisième, juste derrière le PSOE. Ce résultat, cumulé à celui obtenu par Citoyens, le parti de la citoyenneté, contribue à mettre fin enfin au bipartisme qui avait rythmé la vie politique espagnole depuis la fin du franquisme et marque pour Podemos et surtout pour l'Espagne le commencement d'une nouvelle façon de voir la politique, non plus verticale mais horizontale dans une idée de communauté.
Eh bien merci beaucoup Adélaïde pour cet historique très complet. Tout de suite une petite pause et on reprend avec Virgile.
Ça va, j'ai pas dit mais... Thank you.
Campus Tour et de retour dans les Glaneuses. Virgile, tu nous dresses ce soir le portrait du secrétaire général du parti Podemos, qui est Pablo Iglesias.
Exactement, c'est l'homme fort du parti d'extrême gauche espagnol. Il s'appelle Pablo Iglesias. Il est né en 1978 à Madrid. Il a donc actuellement 37 ans. C'est un jeune enseignant-chercheur en sciences politiques qui est devenu en quelques années l'homme fort de la gauche espagnole, le leader du parti Podemos. Jamais rasé, queue de cheval, une chemise mais pas de costume. Au Parlement européen, le look de Pablo Iglesias tranche déjà avec celui de ses collègues eurodéputés. C'est la tête d'affiche du nouveau parti espagnol Podemos. Pablo Iglesias a été élu député européen le 25 mai dernier. Alors en lisant la biographie de Pablo Iglesias, j'ai constaté que le destin de cet homme était de porter les idées de la gauche, comme il le dit lui-même, en Espagne et maintenant en Europe, on va le voir tout à l'heure, car Pablo Iglesias, c'est avant tout un nom, celui du père du socialisme espagnol. Mais notre Pablo Iglesias à nous, celui de Podemos, lui, il est né à Vallecas, un quartier de Madrid, de tradition ouvrière et contestataire. C'est même sa mère qui le dit d'ailleurs dans la famille, je cite, on lutte pour la classe ouvrière depuis le 18e siècle. Et c'est vrai que quand on regarde l'arbre généalogique de Pablo Iglesias, on retrouve des députés, des condamnés à mort pour leurs idées politiques, des juges et des militaires républicains. Alors l'activisme politique de gauche est donc dans les gènes de Pablo Iglesias qui s'inscrit dès 14 ans aux Jeunesses communistes. Après s'en suivent de brillantes études en faculté de sciences politiques, puis une thèse en doctorat. Pablo va faire de nombreux voyages dans le monde et va participer au mouvement de résistance civile et de lutte contre la mondialisation. Il s'est ensuite dirigé vers la politique avec une vraie volonté de réinventer l'Europe et de donner plus de pouvoir aux citoyens. Les idées de Podemos étaient déjà là, mais avant que le parti n'éclose, il a fallu du temps. Beaucoup de temps, du temps pour se roder aux joutes oratoires des plateaux télé, du temps pour s'approprier politiquement l'indignation, los indignados, de nombreux Espagnols. Et donc ensuite, le mouvement Podemos émerge par la suite grâce à une émission de télévision, La Tuerca. D'abord sur internet, puis à la télévision. La Tuerca, donc présentée par Pablo Iglesias, est un véritable succès. On y débat avec des invités d'horizons politiques très variés. Iglesias y construit son discours et apprend à maîtriser les codes de la télévision. Il savait se contenir, pouvait se débattre. Il était à l'aise devant les caméras. Il pouvait participer à des émissions de l'autre bord idéologique. Il dénonce, mais sans jamais perdre sa contenance. Et cette émission est pour lui la porte d'entrée des grandes chaînes télévisées d'Espagne. Il est donc très très doué en communication, un réel atout en politique, ce qui va le pousser petit à petit à vouloir agir et changer radicalement l'Espagne. Il va donc participer à la création du parti Podemos en 2014 et va devenir le leader charismatique de ce parti que l'on connaît tous, élu député européen en mai 2014. Il démissionne ensuite de ce poste en vue des élections régionales, des élections générales espagnoles de 2015, et va s'en suivre un succès considérable qui nous réserve sans aucun doute beaucoup de surprises dans les années à venir. Alors j'ai une petite question pour nos invités. Essayez-moi de décrire Pablo Iglesias en trois mots. Comment vous feriez ?
En trois mots, moi je mettrais en avant... Et ça, la bête de communication. Je pense que c'est vraiment... Alors, c'est peut-être bête de communication, ça fait trois mots. Mais je pense que c'est vraiment un élément sur lequel vous avez insisté et qui me semble assez essentiel dans la stratégie médiatique du parti, la construction d'une figure charismatique. Et là, ça va être une différence avec le mouvement des indignés, le fait de mettre en avant cette figure d'un leader. Et je pense que c'est un point qui est assez important dans...
D'accord, vous avez une petite idée ? Vous connaissez bien Pablo Iglesias ou pas du tout ?
D'accord, c'est la médiatisation qui est très très douée pour ça.
C'est important, c'est peut-être pour ça que le parti
a...
Ouais, les réseaux sociaux.
Ouais, il est très fort aussi.
Bon, on va en parler tout à l'heure. Vous utilisez les réseaux sociaux ou pas du tout ?
Oui.
Ouais.
Oui,
Facebook. Donc c'est un outil hyper important pour la politique.
Très important,
D'accord. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi, Virgile. On s'écoute tout de suite Eminem et on reprend avec l'interview de nos invités de ce soir. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam and Tommy just burst in the door. We started whooping her ass first than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said, nothing, you idiots. Dr. Dre's dead, he's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, 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 Slim Shady, I'm sick of him. Look at him, walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know. But no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes rules up in my head loose, but no worse than what's going on. I don't wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips, my bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids. And expect them not to know what a woman's is. Of course they're gonna know what intercourse is. By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who put other people open like cantaloupes. But if we can hunt dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Will Smith don't got a cuss in his raps to sell records. Well, I do, so damn it, you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? You guys can just lie to get me here, so you can sit me here next to Britney Spears? Christina Aguilera better switch me chairs, so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear him argue over who she gave to first. Little put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. I should download her audio on MP3 and show the whole world how you gave Eminem.
I'm sick of you little girl and boy groups. All you do is annoy me. So I have been sitting here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a f*** like me, who dress like me, walk, talk, and act like me. And just might be the next best thing, but not quite me. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside the living room. The only difference is I got the balls to say it in front of y'all. And I don't gotta be false or sugarcoated at all. I just get on the mic and spit it, and whether you like to admit it, I just better than 90% of you rappers out, kid. Then you wonder how can kids eat up these albums like it's funny. Cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting. Pinching nurses' asses when I'm for jerkins and I'm jerking. But this whole bag of Viagra isn't working. And every single person is a Slim Shady lurking. He could be working at Burger King, spitting on your onion rings. Or in the parking lot circling, screaming, I don't give a f- with his windows down and the system up. So will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up and be proud to be out of your mind and out of control. And one more time, loud as you can, how does it go? I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up.
Yes, there's a Slim Shady in all of us. Let's all stand up.
Et on se retrouve dans les Glaneuses radio, sur Radio Campus Tours. Alors ce soir, donc, comme vous l'avez compris, nous accueillons Héloïse Ney, qui est du coup enseignante-chercheure en sociologie à l'université François Rabelais, et qui a écrit le livre Podemos de l'ordination aux élections. Alors déjà, peut-être une question toute simple pour commencer. Pourquoi avoir écrit un livre sur le mouvement Podemos ?
En fait, il me semblait intéressant de présenter ce phénomène de Podemos au lecteur français. C'est vraiment un livre qui est fait pour le lectorat français, parce que déjà c'est un phénomène qui est assez étonnant. Adélaïde l'a bien présenté dans sa chronique, de montrer un succès électoral en 2 ans qui est assez surprenant. Donc essayer de comprendre un petit peu les facteurs de ce succès. Mais aussi, il me semble que Podemos, en fait, sur certains aspects, même s'il est très ancré dans le contexte espagnol, peut aussi nous interroger dans le contexte français, déjà parce que c'est un nouveau parti anti-austérité en Europe qui s'inscrit pour cela dans la continuité de partis comme Syriza, par exemple, contre l'austérité. Donc je pense que c'est aussi des questions qui se posent en France, cette lutte contre l'austérité face à la crise économique. Et un deuxième point qui me semble aussi intéressant, c'est que dans un contexte de montée de l'abstention un peu partout en Europe, et aussi de monter de l'extrême droite dans le contexte français. Podemos, c'est un parti qui arrive à remobiliser les électeurs qui ne votaient pas ou qui ne votaient plus, et notamment les jeunes. Les jeunes, c'est les principaux électeurs de Podemos. Donc essayer de comprendre un parti comme ça qui remotive en fait les électeurs, qui crée l'espoir en politique, je pense que c'était quelque chose qui était intéressant à creuser.
Et pour aller dans ce sens-là, du coup, est-ce que vous pensez que les idées de Podemos peuvent s'exporter en France ?
Alors, je pense qu'effectivement, c'est un parti qui est, en tout cas dans l'émergence, qui est très lié au contexte espagnol. Vous avez parlé, Adélaïde, en introduction, enfin en chronique, des liens avec le mouvement des indignés, qui permettent de comprendre l'émergence de Podemos en Espagne. Il y a un contexte de crise économique, de crise politique qui est très aigu quand émerge Podemos. Et en même temps, même si c'est une expérience qui est très ancrée dans ce contexte de crise, il me semble qu'il y a un certain nombre d'idées, notamment dans les politiques que vous avez présentées en introduction, que veut lancer Podemos pour tourner la page de l'austérité en Europe et promouvoir davantage les politiques de redistribution sociale. Ça, c'est des questions qui se posent tout à fait dans le contexte français. Et puis après, les stratégies électorales de communication de Podemos, notamment vous l'avez présenté comme un parti radical de gauche, ensuite dans votre chronique Virgile comme un parti d'extrême gauche, mais justement en fait Podemos se présente pas comme ça. Il va davantage mettre en avant un autre type de clivage qui est pas le clivage gauche-droite, même si ses fondateurs comme Pablo Iglesias sont clairement issus de la gauche, vous l'avez bien montré, mais va davantage mettre en avant un clivage au bas, entre le peuple et la caste. Et en fait, ça va être un clivage qui va permettre de mettre en avant un certain nombre d'inégalités sociales qui se développent, qui s'accentuent. Et l'objectif de Podemos, de cette manière, ça va être de ne pas être enfermé dans une identité justement de gauche radicale qui pourrait les écarter d'une partie de l'électorat. Et comme leur objectif, c'est de remporter les élections, en fait, ils vont chercher à définir un projet politique qui permette en fait un ralliement de la majorité de la population. Donc ils vont se définir un peu autrement, ils ne vont pas se définir comme un parti d'extrême gauche.
Alors justement, ce projet politique, qu'en est-il et quelles sont vraiment les idées fortes de Podemos?
Alors les idées fortes de Podemos, en fait, elles reprennent deux grandes revendications du mouvement des indignés, qui sont d'une part la lutte contre la corruption politique, et pour un certain nombre de changements dans le système politique, et d'autre part la lutte contre les inégalités économiques, sociales, économiques, et pour davantage de justice sociale. Donc on va retrouver en fait ces deux aspects dans le programme de Podemos, avec un certain nombre de propositions qui visent notamment à avoir plus de transparence en politique, à changer le système électoral pour qu'il soit réellement proportionnel, à faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de mesures pour éviter une professionnalisation de la politique, donc tout ce qui peut être dans le renouvellement, si vous voulez, de la politique, et aussi un certain nombre de mesures pour permettre en fait davantage de redistribution sociale. Donc c'est-à-dire clairement en fait, ce que dit Podemos, hein, c'est qu'il récupère l'espace qui a été délaissé par la social-démocratie. Donc en fait c'est clairement un programme de redistribution sociale en augmentant l'aspect redistributif des impôts. Des impôts sur les revenus, sur le patrimoine, sur les successions, et de permettre en fait des politiques sociales, notamment en Espagne. Vous savez, il y a une grande crise qui est liée aux questions de logement, le fait qu'il y ait une multiplication des expulsions de logements en lien avec la période de spéculation immobilière. Et donc, une des propositions phares de Podemos, c'est de faire une loi qui paralyse ces expulsions de logements et qui empêche en fait d'expulser des gens si on n'a pas d'alternative à leur proposer en termes de logement. Et aussi qui empêche de laisser des gens, des ménages, sans accès à l'eau, au gaz ou à l'électricité. Donc c'est ce genre de mesure sociale qui est dans leur programme.
Oui, j'avais une petite question. Aux dernières élections en Espagne, on parlait déjà d'une alliance entre Podemos et le Parti Socialiste Espagnol, le PSOE. Serait-ce possible ?
Alors, il y a des négociations qui sont toujours en cours. Vous savez qu'après les élections législatives du 20 décembre, il n'y a toujours pas de gouvernement en Espagne. Il y a eu des débuts de négociations entre le PSOE et Podemos, mais qui n'ont pour l'instant pas abouti à un projet de gouvernement. En fait, ce que, pour l'instant, l'accord qu'il y a, c'est entre le PSOE, donc les socialistes, et Ciudadanos. Ciudadanos, c'est un parti relativement récent, qui est un parti libéral, de centre-droit, on va dire, qui est un parti qui est né en Catalogne en 2006 et qui a été un peu exposé comme concurrent de Podemos, si vous voulez, un nouveau parti politique et aussi pour le renouvellement de la politique, pour lutter contre la corruption, mais qui a un parti qui est beaucoup plus libéral en termes de politique économique. Et donc en fait, comme le PSOE a fait alliance avec ce parti, a fait un pacte, si vous voulez, pour un gouvernement avec ce parti, il semble compliqué dans ces conditions qu'il y ait une alliance avec Podemos. Ceci dit, en fait, PSOE plus Ciudadanos, ça ne permet pas de faire un gouvernement. Donc, il y a encore des négociations qui sont en cours. Dans la presse, aujourd'hui en Espagne, on peut lire que Pablo Iglesias et Pedro Sánchez, qui est le leader du PSOE, devraient se parler pour essayer d'avancer. Mais il paraît compliqué, en fait, de faire une alliance à la fois avec Ciudadanos et à la fois avec Podemos, parce que c'est des partis qui ont des idéologies en fait, qui sont très différentes, enfin qui sont opposées.
Et donc, si jamais il y avait une alliance, il y aurait quoi comme conséquence, par exemple ?
S'il y avait une alliance entre le PSOE et Podemos, alors ce que demande Podemos, en fait, c'est que ce soit un gouvernement, un co-gouvernement, c'est-à-dire que ce ne soit pas un gouvernement du PSOE qui appuierait Podemos, mais qui est vraiment un gouvernement avec les deux partis, ce que pour l'instant refuse le PSOE. Ce qui aurait comme conséquence, il y aurait des conséquences en termes de politique mise en place, hein, parce que forcément, ça ne va pas être une carte blanche au Parti socialiste. Après, il peut y avoir des conséquences sur l'équilibre politique espagnol. Hein. Clairement, c'est une redistribution un petit peu des cartes. En fait, ce qui est intéressant avec les élections législatives, c'est que ni le PSOE ni le PP, qui sont les partis qui alternent au pouvoir depuis la transition démocratique en Espagne, depuis la fin de la dictature, ne peut faire un gouvernement sans les nouveaux partis, hein, que sont Podemos et Ciudadanos.
Alors, moi j'avais juste une petite question, parce qu'on parle beaucoup de corruption, que Podemos veut lutter contre ça, que le parti politique aussi centre-droite, qui est présenté comme l'actuel concurrent de Podemos, veut lutter contre la corruption. J'ai l'impression qu'il y a un gros contexte de corruption en Espagne. D'où ça vient? Alors, ça a été mis à la lumière quand, enfin...
Alors en fait, effectivement, il y a énormément de cas de corruption en Espagne qui sont liés à la période de spéculation immobilière qui a précédé, si vous voulez, la crise économique. C'est-à-dire la croissance avant la crise en 2008, la croissance espagnole, hein, le miracle espagnol que Merkel venait voir pour savoir comment ça fonctionnait, il était lié à une explosion du secteur du bâtiment. Mmh. On construisait en Espagne, les années précédant la crise, on construisait en Espagne deux fois plus qu'en France et en Allemagne réunies. Enfin, donc c'était vraiment une bulle immobilière aussi qui s'est constituée. Et en fait, il y a beaucoup d'affaires de corruption qui datent de cette période. C'est-à-dire des affaires de corruption entre les entreprises immobilières et les élus du PP comme du PSOE, hein, de plusieurs partis, qui en fait permettaient notamment de construire là où ce n'était pas possible. Donc clairement, il y avait des pots de vin, enfin, il y a des réseaux de corruption énormes qui sont mis au jour depuis quelques années. Et en fait, c'est quand je vous parlais d'un contexte de crise politique, c'est principalement lié à ces affaires de corruption. C'est-à-dire que les Espagnols ont complètement perdu confiance dans leurs élites politiques et dans ces deux partis qui étaient traditionnellement au pouvoir, parce qu'ils sont impliqués dans ces affaires de corruption. Par exemple, il y a une énorme affaire qui concerne le financement illégal du Parti populaire. Et même Mariano Rajoy, hein, qui est actuellement le président du gouvernement en Espagne, serait concerné, hein, selon ce qui a été révélé dans la presse, par ces affaires de corruption. Et le Parti socialiste est aussi concerné par d'autres affaires, notamment en Andalousie, qui est un des bastions régionales du Parti socialiste, où il y a une affaire de détournement en fait, d'aide qui était destinée à des entreprises en difficulté. Donc ces affaires de corruption expliquent pourquoi les Espagnols en fait, voient ces deux partis comme étant les co-responsables de la crise économique. Parce que ce sont des partis qui se sont enrichis, en fait, pendant la période de spéculation immobilière qui a mené à la crise. Et en plus, ce sont des partis qui ont mené les mêmes politiques économiques face à la crise. Quand la crise émerge, c'est le Parti socialiste qui est au pouvoir. Donc ça, c'est important pour comprendre la remise en cause très forte aussi du bipartisme en Espagne, c'est que ce sont les socialistes qui sont au pouvoir, ce sont eux qui vont mettre en place les premières coupes budgétaires dans les services publics.
D'accord, donc vraiment Podemos s'inscrit comme le parti qui reprend les choses en main pour lutter contre ça, et puis
ce qui se passe,
la voix du peuple, quoi.
Comme il y a une crise très forte de ces partis traditionnels, du coup il y a un espace politique. Hein, c'est ce que disent les leaders de Podemos, il y avait un espace politique à prendre, un espace dans la scène électorale, et soit c'était nous qui le prenions, soit ça pouvait être aussi un parti d'extrême droite.
D'accord.
Donc en gros, il y avait un espace à prendre et ils l'ont pris.
Et donc justement, les citoyens ne croient plus à la politique, c'est une réalité. Podemos est pour des mécanismes de participation citoyenne. Alors concrètement, comment ça se traduit dans le parti?
Alors les citoyens ne croient plus à la politique, ils ne croient plus, je pense qu'il y a une défiance vers certaines pratiques politique et certains représentants. Hein, par exemple, avec Podemos, il y a aussi une renaissance, un certain espoir dans la politique. Hein, si on prend, par exemple, le slogan pour les élections européennes, c'était quand la dernière fois vous avez voté avec espoir, c'est aussi un certain regain d'intérêt pour la politique. Alors après, les mécanismes de participation citoyenne, ça, on peut le voir dans les villes qui ont changé en mai 2015. Adélaïde, vous avez parlé de ces villes qui sont arrivées. Alors, ce n'est pas Podemos qui les dirige seulement, c'est dans le cadre de coalitions d'unité populaire plus large, je vous l'avais bien souligné. Et par exemple, si on regarde à Madrid ou à Barcelone, il y a effectivement des politiques participatives assez novatrices qui sont mises en place. Par exemple, à Madrid, en fait, c'est assez intéressant parce que l'élu qui est en charge de la participation citoyenne, il s'appelle Pablo Soto, c'est un trentenaire qui est hacker et qui a beaucoup participé au mouvement des indignés, qui s'est politisé avec le mouvement des indignés. Et ils veulent mettre en place des processus assez intéressants. Par exemple, le fait que des citoyens peuvent faire des propositions. Alors, c'est tout un système de démocratie électronique, hein, vu qu'il est hacker. Si les citoyens font des propositions qui sont ensuite votées par un certain pourcentage de la population, elles sont directement mises en place par la municipalité, par l'équipe municipale. Ils sont aussi en train de lancer des budgets participatifs. C'est-à-dire qu'on met dans le débat et aussi il y a des décisions, enfin c'est un processus qui est décisionnel, c'est-à-dire qu'on a les citoyens un accès direct à la décision sur une partie du budget de la ville. D'autres processus sont mis en place, par exemple sur des projets urbains. C'est le cas pour rénover une place à Madrid qui s'appelle la Plaza España, qui est une grande place dans la capitale, et où il y a un processus participatif aussi en s'appuyant beaucoup sur la démocratie électronique, hein, c'est-à-dire sur Internet, en gros la participation sur Internet qui est mise en place. Donc ce sont des processus comme ça qui sont lancés à l'échelle municipale et qui pourraient être étendus à d'autres échelles.
Cette participation citoyenne, elle explique en partie le succès de Podemos.
Alors en partie, oui, parce que quand le projet est lancé, donc le 17 janvier 2014, le projet de lancer un parti, au début, les conditions qui sont mises en place, enfin qui sont énoncées par les fondateurs de Podemos, c'est le fait qu'il faut un soutien. Alors je crois que c'était 50 000 signatures ou 500 000, je me souviens plus. Enfin, il fallait un certain nombre de soutiens en termes de signatures. Et surtout, ce qui est plus important, c'est qu'en fait, très rapidement, il y a des cercles qui font se multiplier un peu partout dans le pays, sans que les fondateurs à l'échelle nationale puissent tellement, dans un premier temps en tout cas, si vous voulez, contrôler un petit peu le développement de ces cercles. Et c'est là où on voit le lien avec le mouvement des indignés. C'est-à-dire qu'avec le mouvement des indignés, il y avait des assemblées qui se sont mises en place à l'échelle locale, dans les quartiers, qui ont permis un renouvellement de l'action collective dans les quartiers. Et en fait, quand le projet de Podemos s'est lancé, il va y avoir des gens un petit peu partout dans le pays qui vont fonder des cercles à l'échelle locale, à l'échelle des quartiers. Et là, on voit cette question de participation citoyenne, hein, cette question en tout cas de citoyens qui vont proposer en fait de mettre en place des... Si vous voulez, le cercle, c'est un peu la structure locale du parti. Après, dans un deuxième temps, il y aura tout un processus d'institutionnalisation du parti où le poids de ces cercles dans l'organisation générale de Podemos perdra en partie de l'importance... L'importance acquise initialement, hein, avec une organisation assez verticale qui sera mise en place. Mais en tout cas, dans l'émergence et la constitution initiale du parti, il y a un rôle vraiment essentiel qui est joué par la participation citoyenne.
Ouais, donc on parle justement de participation citoyenne. On parlait tout à l'heure aux antennes d'économie collaborative et participative. Donc au niveau économique, Podemos s'inscrit aussi dans une notion de refaire l'économie, mais au niveau de communauté. Donc vraiment, le fait d'échange à échange, vous parliez tout à l'heure d'économie participative sur Internet, pour la place par exemple. Donc en fait, c'est vraiment refaire tous ensemble une économie, c'est ça un petit peu ou pas?
Il y a certaines propositions dans leur programme, par exemple de soutien à l'économie solidaire et sociale, par exemple. Il y a tout un mouvement de création de coopératives en Espagne qui, avec la crise aussi, a pris à pas mal d'ampleur. Mais il y a aussi des propositions qui s'inscrivent dans une conception plus classique de l'économie. Par exemple, un des gros points du programme de Podemos pour relancer l'emploi et pour permettre un changement, ce qu'ils appellent un changement du modèle productif, c'est la transition énergétique. C'est-à-dire que le changement, en fait, changement de modèle productif, parce que jusqu'à présent, la croissance espagnole était beaucoup basée sur le secteur du bâtiment. En gros, c'est bâtiment et tourisme, les principaux secteurs économiques en Espagne, qui se sont effondrés avec la crise, surtout le secteur du bâtiment. Et donc l'idée, dans le programme économique de Podemos, c'est avoir une reconversion écologique, si vous voulez, de l'économie, et faire en sorte, par exemple, que les gens qui travaillaient dans le bâtiment jusqu'à présent... travaillent davantage, par exemple, dans la réhabilitation écologique des bâtiments ou dans l'installation de panneaux solaires. En Espagne, il fait beau, donc pas mal de panneaux solaires. Il y a pas mal de propositions comme ça dans le programme. Enfin, c'est les premiers points, en fait, de leur programme pour créer de l'emploi et pour penser à un nouveau modèle productif qui est basé sur une transition énergétique.
D'accord.
Merci beaucoup, Héloïse. Alors, ce soir, nous sommes aussi avec Alain Dusserre, qui est fondateur en fait d'un cercle justement Podemos en France. Alors il s'agit pas de Podemos en Espagne, on l'a bien compris, mais il s'agit vraiment d'un cercle qui se construit en France avec les idées de Podemos en Espagne. Alors déjà, pourquoi avoir décidé de créer un cercle de Podemos ici à Tours?
On a constaté qu'on était dans une situation politique différente de l'Espagne, mais il y a quand même beaucoup, comme disait Héloïse, il y a beaucoup de points communs. Alors la corruption, on n'est pas au même niveau, ça existe aussi en France. Bon, il y a des affaires, il y a même des gamelles qui sont accrochées derrière des personnes célèbres. Je parlais de Nicolas Sarkozy, par exemple, etc. Mais quand j'en discutais avec un copain espagnol, il nous disait, vous avez une affaire Cahuzac par jour en France, nous on en a 30 tous les jours là-bas. Donc c'est à peu près ça. Donc c'est aussi notre expérience politique qui fait qu'on vient, pour certains, pour ma part, on vient de Nous sommes des anciens militants de partis et de longue date, je dirais. Et on en est arrivé à la conclusion que l'influence des partis... On est en train de changer d'air, on est en train de changer d'époque. L'influence des partis est minime, surtout, je vous parle pour le secteur que je connais, c'est-à-dire la gauche radicale. Et donc, on voudrait finir un petit peu avec des pratiques verticales, c'est-à-dire des idéologies qui sont imposées depuis le haut, qui passent mal, qui sont mal connues, des partis qui ne sortent plus sur le terrain, qui redoutent d'aller au contact de la base, c'est-à-dire de ce qui était leurs électeurs au départ. Moi je l'ai expérimenté dans le Front de Gauche, par exemple. On a des partis où il y a des gens qui sont extrêmement forts en théorie, c'est-à-dire qui ont lu tout ce que vous voulez comme auteur politique, mais qui se contentent de rester dans des réunions. C'est un peu le mal français, ça. C'est pas que chez nous, hein, c'est un peu dans tous les partis que c'est comme ça. Et ils ont une très grande théorie, mais quand il s'agit d'aller sur le terrain, pour aller discuter avec les gens, leur faire sortir leurs problèmes, et les faire s'intéresser vraiment à ce que disait tout à l'heure, prendre leurs affaires en main, nous, c'est un peu notre slogan, ils sont incapables de le faire. Donc, nous, on s'est dit, tiens, on a recherché un peu qui à la base, avec le travail des cercles, par exemple en Espagne, procédait un peu de la façon dont nous on voulait faire, et on est tombé sur Podemos. Après, on a été lire un peu d'où ils viennent, Gramsci, tout un tas de Laclau, et puis on s'est posé la question de est-ce qu'on pourrait être pertinent si on arrivait à organiser une base comme ça pour aller après sur un mouvement politique qui serait fédéré, qui serait beaucoup plus construit à l'image de Podemos Espagne, et puis à certaines échéances pouvoir présenter des gens aux élections. D'ores et déjà, c'est pas notre préoccupation. Il y a d'autres mouvements citoyens qui se sont organisés depuis quelque temps. Nous, on a choisi justement cette appellation de Podemos pour pouvoir se fédérer d'autant plus facilement, c'est pas pour histoire d'éviter qu'il y ait le comité citoyen de tel endroit. Il y a des villes où, comme Lyon, où il y en a 30 ou 40 différents. Et ils sont en train de se courir après en ce moment pour justement se réunir, se fédérer et constituer un mouvement citoyen à grande échelle, quoi, disons. Dont on fera certainement partie aussi. Donc il y a eu des assises à Vaugué, par exemple, avec des cercles, des groupes citoyens, enfin des collectivités citoyennes qui se sont regroupées de manière à se connaître et à se fédérer, et aller jusqu'à élaborer des plateformes politiques ensemble. Et certainement, je pense qu'il y a une issue qui se présentera pour certains d'entre eux, certaines parties qui seront capables de présenter des listes aux législatives en 2017.
Oui, je voulais réagir par rapport à l'incarnation du parti en France. On l'a vu en Espagne, c'est Pablo Iglesias. Par qui pourrait être incarné le parti en France ?
Alors, je vais te répondre que pour nous, ce n'est pas une préoccupation. Quand on fait une politique horizontale, si on doit avoir des leaders, c'est-à-dire courir après un leader charismatique, je dirais par le fait de bonapartisme, etc., ça ne nous intéresse pas. Nous, on est vraiment très, très horizontal. C'est-à-dire, quand on fonctionne dans un groupe, on va désigner des porte-paroles. Si possible, quand il y a des porte-paroles, ce ne sera jamais deux fois les mêmes pour éviter les problèmes avec les médias. Donc, chez nous, de leader, on essaye de ne pas en avoir. Moi, je peux vous dire d'où je viens et où je souhaite aller. Je suis un autogestionnaire. Donc, un leader, c'est pas tellement notre tasse de thé. C'est pas non plus notre préoccupation, parce qu'on n'est pas non plus accès sur des élections. À l'heure actuelle en France, vous vivez à tarif de une élection par an, voire deux. Et pendant ce temps-là, les gens sont mobilisés par les partis, parce que malgré qu'ils n'aient pas encore d'influence, il faut quand même reconnaître que les forces militantes, elles sont encore dans les partis. Nous, on va sur le terrain, on essaye de faire que les gens, ils prennent leurs affaires en main, c'est-à-dire qu'ils ne délèguent plus, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des gens qui prennent leurs affaires en main et qui fassent toute autre chose une fois qu'ils ont obtenu leur mandat. On voit par exemple Hollande, quand il s'est présenté, il fait tout à fait l'inverse de ce qu'il a dit. Bon, c'est... Ouais. Donc ça peut vous donner une idée de ce que l'on pense de la délégation de pouvoir, en gros. Donc encore un point avec lequel on serait davantage d'accord avec Podemos. Et quand il y a eu, par exemple, quand ils se sont réunis à Madrid, il y avait deux Podemos, quand ils se sont fédérés en partie, il y avait deux motions. Moi, j'étais plutôt pour la motion qui n'était pas illésiste, c'est-à-dire que il voulait la motion qui était anti-Iglesias, pas anti, mais qui était, disons, qui était confrontée, adversaire de Iglesias, prévoyait un porte-parole justement au lieu d'avoir un leader charismatique, qu'il est d'ailleurs. Bon, évidemment, je crois qu'ils ont fait 10 ou 15% des voix, pas plus, et c'est la motion Iglesias qui l'a emporté. Alors, nous, on est plutôt sur des bases, on essayerait de faire quelque chose à la base avec horizontal, c'est-à-dire le moins de leaders possible.
D'accord, et vous êtes combien à Tours en ce moment-là ?
Alors pour l'instant, on est 3.
C'est un début.
On n'est pas un cercle, on est un triangle.
Comment vous comptez mobiliser alors les Français à votre cause ?
Justement, là, c'est plus compliqué parce que, pour me contredire, je pense que la mentalité espagnole et en France, c'est complètement différent. Oui, ils sont très conservateurs et on voit bien que quand les indignés sont passés en France, c'est en 2011. Ils n'ont pas été bien accueillis parce que les partis politiques, ils avaient peur de perdre leur pouvoir. Mmh. Et c'est très compliqué. Et en Espagne, en plus, il y a eu aussi le phénomène des expulsions terribles. Ouais. Et ça a motivé les gens aussi, c'est vrai. Hein.
Alors, comment on mobilise les Français à cette cause ?
Ah bah, c'est ce qu'il faut, c'est ça qu'on est en train de faire, on essaye. Mais c'est très compliqué, c'est pour ça aussi.
Quelles sont vos actions concrètes ?
Bah pour l'instant, demain, on fait un petit rendez-vous.
Donc on va le présenter demain. On va présenter, on est les trois. On a fait un communiqué de presse. D'accord. Donc on se réunit au Serpent Volant, tout le monde connaît.
À Tours, oui.
Oui, donc on espère qu'on sera nombreux. Peut-être qu'on sera que nous trois, d'ailleurs. Mais bon, on va faire des actions d'information. Pour l'instant, on n'est que trois. Donc, question de financement aussi. On n'a pas de structure juridique. Donc, si quand on sera plus nombreux, je pense que les cercles qui se sont déjà créés en France ont adopté une structure d'association loi 1901 pour avoir une existence juridique, pouvoir percevoir
subventions.
Non, des subventions, oui, bien sûr, mais aussi les personnes puissent cotiser, les cotisants, les cotisations pour avoir... Alors, évidemment, on a des frais de tract, on peut avoir des frais d'affiche, etc., quand on s'engagera dans des campagnes électorales ou des choses comme ça. Pour l'instant, c'est pas ça. Je pense qu'il va y avoir un gros travail de terrain. Alors, le plus facile pour nous, c'est d'abord de faire des informations. On compte aller dans les quartiers, c'est pas ça qui manque. Faire des informations différentes sur ce que nous voulons faire et inciter les gens à prendre leurs affaires en main de différentes façons. On ne va pas recommencer ce qu'ont fait les partis qui ne marchent visiblement plus. Mais il faut aussi dire, et ça c'est une expérience de militant, parce que moi je vous dis j'étais dans un parti qui s'appelait Ensemble au Front de Gauche. Le Front de Gauche avait dans ses statuts prévu de pouvoir ouvrir l'adhésion directe au Front de Gauche sans passer par aucun des partis. Donc, et sans même être encarté dans aucun des trois. Les trois partis principaux. Les trois partis ont verrouillé complètement parce qu'on se trouve dans des partis qui sont légèrement, enfin moi je dirais, je ne veux pas aller jusque-là, mais un peu parano, surtout que des grands partis comme ça qui n'ont plus de contact avec une base ouvrière ou une base de salariale et qui sont dans leur schéma. Ils ne savent militer que comme ça. Ils ne savent pas organiser autre chose. Ils sont incapables d'inventer quelque chose. Vous nous demandez comment est-ce qu'on va faire. On va inventer avec les gens. On va aller les voir. On va leur dire comment est-ce que vous voulez faire de la politique. C'est ça notre projet. Alors, est-ce que ça marchera ? C'est autre chose. Mais jusqu'à présent, dans le Front de Gauche, par exemple, on se heurte à pouvoir trouver un langage qui soit compréhensible par les gens et qui soit mobilisateur, surtout. Donc on compte sur eux pour voter pour un tel ou un tel, mais pas plus. Et on oublie bien vite après qu'ils ont voté, parce que c'est plus commode de faire de l'entrisme en soi. Les partis français sont comme ça.
Oui, j'avais une autre question par rapport au parti de gauche dans lequel vous étiez avant. Pourquoi ne pas avoir fait ce travail, par exemple, dans le parti dans lequel vous étiez avant, et avoir décidé de créer un Podemos à la française pour se démarquer.
Alors, je reviens exactement sur la même position, c'est que quand on veut ouvrir, c'est ce que je disais avec l'adhésion directe qui était faite pour que les gens de la base viennent dans le Front de Gauche, prennent une carte Front de Gauche, c'était un cartel réellement de parti, c'était pas un parti en soi. Mais les statuts des trois partis permettaient qu'ils viennent sans appartenir à aucun des trois partis, faire partie du Front de Gauche. On a milité pour ouvrir ce truc-là, on s'est fait fermer la porte au nez, que ce soit par le Parti communiste, que ce soit par le Parti de Gauche, ou que ce soit par Ensemble. Alors évidemment, c'est facile, parce que quand on va demander à un responsable au niveau national, au niveau local, est-ce que tu veux faire ? Ah, comment on te renvoie, qu'est-ce qu'il va en dire le Parti de Gauche ? Et le Parti de Gauche, qu'est-ce que va dire le Parti communiste ? Aucun des trois n'en veut, ce genre de truc-là. Ils ne veulent pas ouvrir à la base. On dirait qu'il y a une espèce de peur de se faire dépasser par un mouvement populaire. Par contre, pour faire appel à leur vote, ça, aucun problème. Quand on va dans les cités, quand on va dans les endroits différents, les gens nous connaissent. Ils nous disent, c'est bien, on ne vous a pas vu depuis un an, deux ans, trois ans, la dernière élection, comment ça va ? Au mieux, c'est ça, quoi. Mais il n'y a pas de travail concret sur le terrain au niveau de ce qui préoccupe les gens tous les jours. À telle enseigne que le parti de gauche avec Jean-Luc Mélenchon a essayé de monter ce qui s'appelle le mouvement pour la 6e République. Alors nous, dès le départ, et c'est un peu ça qui a fait aussi qu'on aille sur Podemos, je ne pense pas que quand vous alliez dans les cités où là où les gens sont dans la base d'un mouvement de salariés, ce soit leur première préoccupation soit de créer une assemblée constituante. Ça m'étonnerait, parce que les problèmes de pauvreté en France existent. Il y a quand même 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et je pense que comme ce qui s'est passé en Espagne, il y a des gens qui sont à la rue, il y a des gens qui sont SDF, il y a des gens à qui on coupe le courant électrique. Il y a tout un tas de travail à faire à la base, sans compter les mouvements qui se passent en ce moment, dont on voit qu'ils ont quand même une certaine répercussion dans la population. Je pense qu'on arrive à un moment où les gens sont réellement en colère. On le voit dans les réseaux sociaux, parce que moi je participe beaucoup sur les réseaux sociaux. On arrive à un point de rupture, là. On le voit. Mettre 500 000 personnes dans les rues pour le projet de loi El Khomri, quand on voit la complexité du projet de loi et la manière dont ça a été analysé et la vitesse à laquelle ça réagit, je pense qu'on est à un moment où justement on peut amener les gens à se poser des questions et à poser la question de la pertinence de notre démarche. Voilà.
Non, c'est bon.
Alors moi j'avais une question, je sais pas si on va avoir le temps d'y répondre parce qu'il est déjà 55, mais...
Pardon.
Pas de soucis.
Vous êtes donc un cercle politique, vous dites que votre cercle est appelé à migrer vers un mouvement politique. Moi il y a une question de base quand même que je me pose et que je pose aussi pour les auditeurs. Est-ce que vous partagez exactement les mêmes idées que Podemos en Espagne ?
Exactement. Alors nous ce qui nous intéresse c'est un peu le clivage en haut, en bas. Alors, on ne va pas dire qu'on fait de la lutte des classes 2.0, c'est l'ancien militant communiste qui parle. Mais on est quand même bien persuadé, pour avoir travaillé longtemps, de qui exploite, de qui détient le pouvoir, et de qui détient les ressources, l'argent et le pouvoir. Je peux vous assurer que ce n'est pas nous. Et quand on voit à quel niveau intervient le pouvoir de l'argent, on sait qui c'est. Et les gens commencent de toute façon sur un certain discours quand on commence à parler de personnes qui en est content, Suisse, etc. Moi, je vous parle d'il y a quelques années, quand on militait avant, les gens n'étaient pas du tout interpellés. Ils étaient interpellés par la fortune des footballeurs, par exemple. Maintenant, quand on commence à parler de Bernard Arnault et qu'il y a un film qui sort sur lui, que François Ruffin commence à le montrer dans sa réalité, je crois que les gens commencent à être mobilisés par ça. La plupart des gens de base, ils n'ont pas un yacht de 125 mètres. Et pour aller Saint-Pierre-des-Corps, vous me direz, ça ne se justifierait pas. Ils ne prennent pas un avion privé, si vous voulez, un jet privé. Donc, il y a quand même tout un tas de choses qui sont en train de rentrer dans la mentalité des gens. Et ils commencent à voir qui mène les débats et comment. Ça, c'est... Avant, quand on disait, on parlait d'un grand patron, de quelqu'un qui avait... Mais je parle des patrons du CAC 40 ou des familles possédantes. Les gens, ils nous regardaient d'un air dubitatif. Après tout, ils leur donnaient du travail, ils leur donnaient de quoi mener leur vie, quoi. Maintenant, il y a quand même plein de gens qui sont traités, qui sont considérés comme des numéros, comme des matricules, et on les fout dehors sans aucune considération. C'est des gens arrivés à 55 ans, vous avez passé votre vie dans une entreprise, vous avez donné un maximum de ce que vous saviez faire de mieux, au fou dehors, que, sans aucun ménagement. Il y a de plus en plus de burn-out, il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent, après avoir été des gens qui avaient des postes de cadre dans des entreprises importantes, qui se retrouvent quasiment SDF. Il y a des services publics où il y a des gens qui se suicident, il ne faut pas l'oublier. Donc de plus en plus... Le système est prégnant sur les gens, sur les gens qui travaillent. Et je pense que on arrive à un moment où les gens ne courbent plus les chines. Ils ont envie maintenant de relever la tête et puis de voir s'ils peuvent pas faire autrement. Donc prendre leurs affaires en main et même au niveau politique, faire de la politique, c'est au sens classique du terme, c'est pas les magouilles dans les partis, c'est pas de la tambouille pour les élections. C'est aussi faire marcher une cité. Alors nous, on a eu l'expérience d'avoir présenté une liste citoyenne aux élections municipales de Tours. Et il y a un collectif qui existe encore derrière, un collectif citoyen qui existe encore derrière et qui continue à reprendre des dossiers, à faire des propositions politiques au niveau, par exemple, de la gratuité des transports. Ça n'a rien à voir avec nous, hein, je vous le dis tout de suite, ça n'a rien à voir. Mais c'est quelque chose que l'on sait qui continue à se passer. Et donc les gens ne militent plus comme dans le temps d'une manière 24 heures sur 24, être délégués de leur travail pour avoir une permanence politique. Les gens, ils viennent pour un sujet de lutte, pour un autre, vous les verrez plus pendant mettons 3 mois, ils viendront pour un autre sujet de lutte, etc. Ils sont moins disponibles, mais en même temps, disons qu'ils ont plus de contraintes au niveau personnel. Donc je crois qu'il faut inventer tout un tas de choses différentes dans les manières de lutter, dans les manières de militer. Tout ce qui est les réseaux sociaux, on en parle maintenant, bon, ça peut aider aussi, ça doit être, on voit que la vitesse à laquelle on a les réseaux sociaux ont mobilisé pour la loi El Khomri, ça a été énorme, ça a été très très vite, hein. c'est une traînée de poudre, ou dans d'autres occasions quand il y a eu la tuerie de Charlie Hebdo, c'est monté à une vitesse phénoménale. Donc il y a un nouveau média qui arrive, qui permet aux gens de s'informer, de donner leurs opinions. Parce que de plus en plus, on envisage d'avoir des chaînes sur YouTube, de se filmer quand il y a des conférences et de les passer aussi sur les réseaux sociaux. Donc c'est beaucoup plus interactif qu'avant, donc il faut se servir de ça, s'investir là-dedans. Et on n'a pas que les moyens, les affiches, etc. Donc maintenant, on peut être aussi pertinent pour proposer des moyens d'action nouvelles.
Merci beaucoup en tout cas Alain Visser. Je vous arrête, je suis obligée parce qu'on doit rendre l'antenne. Je vous remercie à tous d'être venus ce soir. Je remercie Adélaïde, je remercie Virgile.
Merci à toi.
Et Alain. Et on se retrouve du coup dans 15 jours. D'ici là, bonne semaine à tous et bonne soirée.
Il fallait me couper avant, je peux parler.